Littérairement vôtre. Fréquence Mistral vous propose une nouvelle émission littérairement vôtre pour l'amour du théâtre, de la littérature ou de la poésie. Retrouvez Carmen Hubero et Jean-Paul Romette tous les deux mois sur notre antenne littérairement vôtre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour à tous et surtout à toutes.
Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Carmen.
Alors, ce mois-ci, nous allons vous parler, Journée de la femme oblige samedi, nous allons vous parler de deux femmes qui ont marqué la littérature française, Colette et George Sand. Et nous allons commencer par Colette. Jean-Paul, je te propose de faire la biographie de Colette.
Très bien. Le 28 janvier 1873, à Saint-Sauveur-en-Puisé, née Gabrielle Sidonie Colette. Elle est la petite dernière de la famille, la petite reine, le soleil en or, un esprit de garçon dans un corps de fille. C'est ainsi que se définit Colette à 12 ans. À l'école, elle préfère la lecture à l'écriture. Les années passent, et le 15 mai 1893, noyée dans un flot de mousseline blanche, elle épouse Henri Gauthier-Villard, dit Willy. 1900. Alors que Sarah Bernard triomphe dans l'aiglon, paraît Claudine à l'école. Signé Willy. Mais le doute s'installe. En est-il vraiment l'auteur? En 1902, elle est une des premières à suivre précocement la mode des garçons, coupant ses cheveux nattés. En 1906, elle quitte son mari et s'engage dans une relation amoureuse avec la marquise de Belleboeuf. Durant une représentation au Moulin Rouge, une scène de baiser entre les deux femmes choque l'audience et fait scandale, déclenchant jusqu'à l'intervention du préfet de police de Paris.
Pour gagner sa vie, elle poursuit de 1906 à 1912 une carrière au Music Hall, où elle présente des pantomimes orientales dans des tenues très très légères. En 1945, elle est élue membre de l'Académie Goncourt. Elle en devient la présidente entre 1949 et 1954. Après-guerre, elle écrit pour les magazines Elle, puis Marie-Claire. Elle est nommée présidente d'honneur du conseil littéraire de la Fondation Prince de Monaco dès sa création en 1951. Colette meurt le 3 août 1954 à Paris. Elle est la première femme en France à recevoir des funérailles nationales. Son écriture est plus complexe et moderne qu'elle ne semble le supposer au premier abord. Elle se démarque de ses contemporains grâce au sujet qu'elle aborde avec un style épuré, mais élevé. Nous allons maintenant vous faire découvrir un extrait d'un livre de Colette, Chérie.
Chérie arrive le soir sans prévenir chez Léa.
Pourquoi ta mère ne me l'a-t-elle pas appris elle-même hier soir en dînant?
Elle trouve plus convenable que ce soit moi.
Non.
Elle dit.
Et toi?
Et moi quoi?
Tu trouves ça aussi plus convenable?
Chérie leva sur Léa un regard indécis. Oui. Il parut penser et répéta. Oui, c'est mieux, voyons.
Pour ne le point gêner, Léa détourna les yeux vers la fenêtre. Une pluie chaude noircissait ce matin d'août et tombait droite sur les trois platanes déjà roussis de la cour. « On croirait l'automne, » remarqua Léa, et elle soupira.
« Qu'est-ce que tu as ?» demanda Chérie.
Elle le regarda étonnée. « Mais je n'ai rien, je n'aime pas cette pluie. »«
Ah, bon, je croyais... »«
Tu croyais ?»«
Je croyais que tu avais de la peine. »
Elle ne put s'empêcher de rire franchement. « Que j'avais de la peine ? Parce que tu vas te marier ?» Non, écoute, tu es drôle. Elle éclatait rarement de rire et sa gaieté vexa Chérie.
Il haussa les épaules et alluma une cigarette. Avec sa grimace habituelle, le menton trop tendu, la lèvre inférieure avancée.
Tu as tort de fumer avant le déjeuner, dit Léa.
Il répliqua quelque chose d'impertinent, qu'elle n'entendit pas. Occupée qu'elle était, tout à coup, d'écouter le son de sa voix et l'écho de son conseil quotidien. machinale, répercutée jusqu'au fond de 5 années écoulées. Puis, elle remonta d'un petit effort vers la réalité et la bonne humeur.
« Une chance que je passe bientôt la consigne à une autre pour le tabage, » dit-elle à Chéri.
« Celle-là, elle n'a pas voix au chapitre, » déclara Chéri. « Je l'épouse, n'est-ce pas ? Qu'elle baise la trace de mes pieds divins et qu'elle bénisse sa destinée. Et ça va comme ça. » Il exagéra la saillie de son menton, cira les dents sur son fume-cigarette, écarta les lèvres et ne réussit à ressembler ainsi dans son pyjama de soie immaculé qu'à un prince asiatique pâli dans l'ombre impénétrable des palais.
Léa, nonchalante dans son seau de lit rose, d'un rose qu'elle nommait « obligatoire », remuait des pensées qui la fatiguaient et qu'elle se décida à jeter une à une contre le calme fin de Chéri. « Enfin, cette petite, pourquoi l'épouses-tu ?»
Il s'accouda des deux bras à une table, imita inconsciemment le visage composé de Madame Peloux. « Tu comprends, ma chère ?»«
Appelle-moi Madame Ouléa. Je ne suis ni ta femme de chambre, ni un copain de ton âge. » Elle parlait sec, redressée dans son fauteuil, sans élever la voix.
Il voulut riposter. Brava la belle figure, un peu meurtrie sous la poudre. Et les yeux qui le couvraient d'une lumière si bleue et si franche. Puis il mollit et céda d'une manière qui ne lui était pas habituelle. « Nounoun, tu me demandes de t'expliquer, n'est-ce pas ? Il faut faire une fin. Et puis il y a de gros intérêts en jeu. »«
Lesquels ?»«
Les miens, » dit-il sans sourire. « La petite a une fortune personnelle. »«
De son père ?»
Il bascula les pieds en l'air. « Ah, je ne sais pas. T'en as des questions. La belle Marie-Laure ne prélève pas 1500 billets sur sa cassette particulière, hein ? 1500 billets et des bijoux du monde bien.
Et toi ?
Moi ? J'ai plus, dit-il avec orgueil.
Alors tu n'as pas besoin d'argent ?
Besoin. Tu sais bien que nous ne comprenons pas l'argent de la même façon. C'est une chose sur laquelle nous n'entendons pas.
Je te rends cette justice que tu m'as épargné ce sujet de conversation pendant 5 ans. Elle se pencha, mit une main sur le genou de Chéri. « Dis-moi, petit, qu'est-ce que tu as économisé sur tes revenus depuis 5 ans ?» Il bouffonna, rit, roula au pied de Léa, mais elle l'écarta du pied. « Sincèrement dit, 50 000 par an ou 60 ? Dis donc, 60 ? 70 ?»
Il s'assit sur le tapis, renversa la tête sur les genoux de Léa. « Je ne les vaux donc pas ?»
Il s'étalait en plein jour, tournait la nuque, ouvrait tout grand des yeux qui semblaient noirs, mais dont Léa connaissait la sombre couleur brune et rousse. Il toucha de l'index, comme pour le désigner, et choisir ce qu'il y avait de plus rare dans tant de beauté. Les sourcils, les paupières, les coins de la bouche. Par moments, la forme de cet amant qu'elle méprisait un peu lui inspirait une sortie de respect. Être beau à ce point-là, c'est une noblesse, pensait-elle. Voilà, j'espère que nous vous aurons donné envie de lire ce texte en entier.
Creeping round the corner, if that someone is Mac the Knife. Tugboat went down on the river. There's a seaman back grooving on down. 'Cause that cement is there for the way it did. I forget you ten then. Mr. Mac is back in town. Did you hear about Louisiana disappearing after drawing out all his hard-earned cash? And it's back in spending like a sailor. You think that boy did something right?
Vous êtes toujours sur l'émission Littérairement Votre. Après Colette, nous allons vous parler de George Sand. À toi Jean-Paul.
George Sand, biographie. George Sand, de son vrai nom, Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, née le 1er juillet 1804 à Paris. Le nom de Sand, qu'elle prend en 1829, ferait référence à l'un de ses amants, l'écrivain Jules Sandeau, avec qui elle écrivit un premier roman à quatre mains. Quant à Georges, sans S à la fin, il s'agit de la forme féminine du prénom Georges. Comme son arrière-grand-mère, qu'elle admire, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. Elle fait scandale par sa vie amoureuse, agitée par sa tenue vestimentaire masculine dont elle lance la mode et par son pseudonyme masculin. Malgré la misogynie de nombreux détracteurs, comme Charles Baudelaire, elle contribue activement à la vie intellectuelle de son époque, accueillant, chez elle, des personnalités aussi différentes que Franz Liszt, Frédéric Chopin, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert. Elle entretient une importante correspondance avec Victor Hugo, bien que ces deux grands auteurs ne se soient jamais rencontrés.
Son premier roman en solo, Indiana, paraît en 1832. Elle rencontre pour la première fois Alfred de Musset le 17 juin 1833 lors d'un dîner. Leur liaison durera jusqu'en 1935 et inspirera à Alfred de Musset la Confession d'un enfant du siècle, paru en 1936. À la mort de Musset, George Sand publie Elle et lui, où elle raconte leur histoire. Sa liaison avec Frédéric Chopin commence en juin 1938. À cette époque, Eugène Delacroix peint le double portrait de Sand écoutant Chopin au piano. En 1973, elle refuse la Légion d'honneur. Elle décède dans sa 72e année, le 8 juin 1876, au château de Noenvic, dans l'Indre. George Sand n'avait pas le goût du scandale, mais celui de la liberté chevillée au corps et à la plume. Elle a osé porter des costumes et un nom d'homme, mener une vie sentimentale, littéraire et politique de son choix. Un affront aux préjugés du XXe siècle et une formidable leçon de courage. Nous allons donc vous lire un extrait de La Mare au diable, Sous les chaînes, un texte de 1846.
Germain et Marie, rejoints par Pierre, l'un des fils de Germain, cheminent ensemble vers un village voisin. En fin de journée, ils s'arrêtent un instant sous de grands chênes pour se reposer. Le fait est qu'on est pas mal ici, dit Germain, en s'asseyant tout près d'elle. Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu. Il est bien 9 heures du soir. Et j'ai eu tant de peine à marcher dans ces mauvais chemins que je me sens tout affaibli. Est-ce que tu n'as pas faim aussi, toi, Marie ?
Moi, pas du tout. Je ne suis pas habituée, comme vous, à faire 4 repas. J'ai été tant de fois me coucher sans souper qu'une fois de plus ne m'étonne guère.
Eh bien, c'est commode d'une femme comme toi. Ça ne fait pas de dépenses, dit Germain en souriant.
Je ne suis pas une femme, dit naïvement Marie, sans s'apercevoir de la tournure que prenaient les idées du laboureur. Est-ce que vous rêvez ?
Oui, je crois que je rêve, répondit Germain. C'est la faim qui me fait divaguer, peut-être.
Que vous êtes donc gourmand, reprit-elle en s'égayant un peu à son tour. Eh bien, si vous ne pouvez pas vivre 5 ou 6 heures sans manger, est-ce que vous n'avez pas là du gibier dans votre sac et du feu pour le faire cuire ?
Diantre ! C'est une bonne idée. Mais le présent, mon futur beau-père ?
Oh, vous avez 6 perdrix et 1 lièvre. Je pense qu'il ne vous faut pas tout ça pour vous rassasier.
Mais faire cuire cela ici, sans broche et sans landier, ça deviendra du charbon ?
Non pas, dit la petite Marie. Je me charge de vous le faire cuire sous la cendre, sans goût de fumée. Est-ce que vous n'avez jamais attrapé d'alouettes dans les champs et que vous ne les avez fait cuire entre deux pierres ? Ah, c'est vrai, j'oublie, vous n'avez pas été pastour. Voyons, plumez cette perdrix. Mais pas si fort, vous lui arrachez la peau.
Ah, tu pourrais bien plumer l'autre pour me montrer.
Vous voulez donc en manger 2 ? Quel ogre ! Allons, les voilà plumées, je vais les cuire.
Tu ferais une parfaite cantinière, petite Marie. Mais, par malheur, tu n'as pas de cantine. Et je serai réduit à boire l'eau de cette mare.
Vous voudriez du vin, pas vrai ? Il vous faudrait peut-être du café. Vous vous croyez à la foire sous la ramée ? Appelez l'aubergiste. De la liqueur au fin laboureur de Bel Air.
Ah, petite méchante, vous me moquez de moi. Vous ne boiriez pas du vin, vous, si vous en aviez ?
Moi ? J'en ai bu ce soir avec vous chez la Rebec pour la seconde fois de ma vie. Mais si vous êtes bien sage, je vais vous en donner une bouteille quasi pleine et du bon encore.
Comment, Marie ? Tu es donc sorcière ? Oh, décidément !
Est-ce que vous n'avez pas fait la folie de demander 2 bouteilles de vin à la Rebec ? Vous en avez bu une avec votre petit et j'ai à peine avalé 3 gouttes de celle que vous avez mise devant moi. Cependant, vous les avez payées toutes les 2 sans y regarder.
Eh bien ?
Eh bien, j'ai mis dans mon panier celle qui n'avait pas été bue, parce que j'ai pensé que vous ou votre petit auriez soif en route. Et la voilà.
Tu es la fille la plus avisée que j'ai jamais rencontrée. Voyez ? Elle pleurait pourtant, cette pauvre enfant, en sortant de l'auberge. Ça ne l'a pas empêchée de penser aux autres, plus qu'à elle-même. Petite Marie, l'homme que tu épouseras ne sera pas un sot.
Je l'espère, car je n'aimerais pas un sot. Allons, mangez vos perdrix, elles sont cuites à point. Et faute de pain, vous vous contenterez de châtaignes.
Et où diable as-tu pris aussi des châtaignes ?
C'est bien étonnant. Tout le long du chemin, j'en ai pris aux branches en passant et j'ai rempli mes poches.
Elles sont cuites aussi ?
À quoi donc aurais-je eu l'esprit si je ne les avais pas mises dans le feu dès qu'il a été allumé ? Ça se fait toujours au champ.
Ah ça, petite Marie, nous allons souper ensemble. Je veux boire à la santé et te souhaiter un bon mari. Là, comme tu le souhaiterais toi-même, dis-moi un peu cela ?
J'en serais fort empêchée, Germain, car je n'y ai encore jamais songé.
Comment ? Pas du tout ? Jamais ? Dit Germain en commençant à manger avec un appétit de laboureur, mais coupant les meilleurs morceaux pour les offrir à sa compagne, qui refusa obstinément et se contentant de quelques châtaignes. « Dis-moi donc, petite Marie, » reprit-il, voyant qu'elle ne songeait pas à lui répondre, « tu n'as pas encore eu l'idée du mariage ? Tu en as pourtant ?»«
Peut-être, » dit-elle, « mais je suis trop pauvre. Il faut au moins 100 écus pour entrer en ménage et je dois travailler 5 ou 6 ans pour les amasser. »«
Pauvre fille !» Je voudrais que le père Maurice voulût bien me donner 100 écus pour t'en faire un cadeau.
Grand merci, Germain. Eh bien, qu'est-ce qu'on dirait de moi ?
Que veux-tu qu'on dise ? On sait bien que je suis vieux et que je ne peux pas t'épouser. Alors, on ne supposerait pas que tu...
Dis donc, laboureur, voilà votre enfant qui se réveille, dit la petite Marie. Voilà, c'était un extrait de La mare au diable de George Sand. La femme est l'avenir de l'homme. Et comme il avait raison, Aragon, alors c'est un homme qui va vous le dire. Jean-Paul va vous réciter ce superbe poème.
Le poète a toujours raison, qu'il voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si l'un chante par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sous la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, au siècle d'infini servage, pèse encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison. D'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau monde, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer, d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Merci Jean-Paul.
Littérairement, votre.